Bonjour. Bonsoir. Bon matin et bienvenue à cette émission de Yoga Partout International. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Laurenceau. Laurenceau est une yogini que j'ai rencontrée comme ça, presque par hasard. Bonjour Anne.
Bonjour Daniel.
Alors, ça me fait un grand plaisir, les frissons partout dans le dos de savoir qu'on peut se rencontrer sur les ondes de Yoga Partout, Web Radio International. Et sans plus tarder, Anne, j'aimerais que vous vous présentiez parce que si je le fais, bien les mots ont des limites et c'est certain que avec tout ce que vous avez comme cheminement spirituel, professionnel et dans la vie humaine, à titre de mère, de femme, d'entrepreneur, de scientifique aussi, ben je risque de manquer mon coup. Anne Laurenceau, pour vous, le yoga, qu'est-ce que ça représente? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, donc je vais essayer de me présenter, parce que c'est difficile en fait de décrire qui on est, mais oui, je suis effectivement une pratiquante de yoga. C'est devenu très important à un moment de ma vie et depuis ça ne m'a plus lâcher. Effectivement, voilà, je n'ai de cesse que de chercher à comprendre tout ce qu'on peut apprendre en yoga et il y en a des choses. Je suis effectivement scientifique, c'est ma formation de base. Je suis docteur en sciences de la vie et j'ai l'impression qu'en fait, ma recherche, donc que j'ai commencé en tant que scientifique, qui est pour moi une quête de comprendre comment on transmet les choses d'une génération à l'autre, ben en fait c'est la même recherche que je fais à travers le yoga, qui est effectivement essayer de comprendre pourquoi on est en vie et qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, quoi. Voilà, en résumé.
Je vais tout de suite pointer les gens vers votre page web qu'on a fabriquée ensemble maintenant parce qu'il y a un instant, il y a de l'écho là. Donc parce que maintenant il y a cette radio qui est imbriquée, malheureusement on ne peut plus toucher la page parce que sinon les modifications ne s'enregistrent pas. Donc tout simplement pour trouver votre descriptif et aussi les sujets dont nous allons discuter, bien c'est très simple. Vous allez sur yogapartout.com et dans l'engin de recherche en haut à droite, vous avez simplement à taper Anne. Et normalement, Anne Laurenceau devrait apparaître dans les choix. Donc, c'est bien Anne, A-N-N-E-L-A-U-R-E-N-C-O-N. Anne Laurenceau, vous avez décrit un peu ce que vous faites. C'est certain qu'on va y revenir parce que qui on est, véritablement, authentiquement, c'est une question qui revient toujours en yoga. J'aimerais qu'on parle de votre chemin dans le yoga. Comment tout ça a commencé qui fait que vous vous êtes retrouvé comme ça à descendre en costume de bain à 5 sous zéro les montagnes en Italie.
Oui. Donc, le vrai commencement du yoga, c'est une période de ma vie où il y a beaucoup de stress, beaucoup de difficultés parce que je suis mère. Donc, j'ai ce nouveau bébé dans les bras et en même temps, je suis en train de faire ce qu'on appelle dans notre jargon scientifique un post-doc, c'est-à-dire on est docteur, mais il faut encore qu'on prouve à la communauté qu'on est capable de mener soi-même un projet de recherche. Et donc, on s'expatrie ou pas, mais la majorité d'entre nous partons à l'étranger. Et donc, je suis à l'étranger, j'ai ce bébé tout neuf dans mes bras, il faut que j'assume cette carrière. Et en même temps, je suis seule avec mon bébé parce que mon mari travaille loin. Donc, c'est beaucoup de difficultés et je ressens le besoin de me poser. Me poser et d'arriver à mettre les choses en perspective. Et c'est donc, dans un cours de yoga que je me dis, je vais trouver ça. Je vais trouver ce recul. Ça, c'est le début. Et en fait, je tombe sur un prof d'Ashtanga yoga. Donc, on ne se pose pas beaucoup. On fait beaucoup de postures. Mais ça me fait un bien fou et je me dis qu'effectivement, j'ai trouvé un moyen de me détendre, quoi. Oui, ça me fait vraiment du bien. Après, en rentrant en France, j'ai pas retrouvé d'ashtanga. C'était très à la mode en Californie, mais pas en France. Donc, j'ai cheminé pendant quelques années de prof en prof. J'ai fait ce que Maurice Dobar appelle du yo-yo gaga, c'est-à-dire des postures sans chercher à comprendre la philosophie, sans chercher à vraiment percevoir ce qu'il y avait au-delà de ces postures. Et un jour, ma foi, tout le stress, malgré le yoga, j'ai pas pu gérer ma vie, les choses ont été difficiles. Et je me suis retrouvée à l'hôpital, en grande difficulté de santé. Et là, je me suis dit, bon, ça va plus, il va falloir reconstruire. Et comme par hasard, après cet événement-là, je suis tombée sur un professeur qui non seulement enseignait les postures, mais parlait du yoga, expliquait pourquoi on allait dans une posture ou une autre, nous donnait cette perspective-là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment travaillé du yoga. Et puis plus tard, effectivement, parce que je vais appeler le hasard, mais je ne crois plus au hasard. Je pense que quand on est prêt, effectivement, on se retrouve, on se retrouve au contact de choses incroyables. Je me suis retrouvée, effectivement, en Italie, face à Maurice Dobar, qui lui enseigne le Tummo Yoga. Donc, on va se mettre dans le froid, on va expérimenter le froid de l'air, de l'eau, sous toutes ses formes. Et donc, un des exercices qu'on va faire, c'est effectivement se retrouver avec des raquettes aux pieds, en maillot de bain, face à la nature, que ce soit des tempêtes, du grand soleil ou peu importe. On est quasi nu dans le froid, quoi. Et on fait face à soi-même, pour de bon. C'est comme ça que je me suis retrouvée, effectivement, en maillot de bain avec des raquettes aux pieds en train de glisser. Parce que j'ai rencontré Maurice. Voilà.
Oui, oui. Ce maître spirituel qui est très, très respectueux en même temps du parcours individuel de chacun. Sa grande intuition vous a quand même beaucoup aidé. Si je me fie aux conversations que nous avons eues avant cette émission, pour vous, le yoga nidra, l'intuition de suivre sa voie, de savoir que ce qu'on fait consciemment, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une possibilité. C'est une réalité pour vous?
Oui. C'est au-delà du conscient. Je pense qu'effectivement, à travers le yoga nidra, j'ai touché du doigt la puissance de l'inconscient. Comment effectivement on est absolument manipulé sans le voir par notre face cachée de la lune. On a notre face très solaire où on croit peut-être contrôler les choses, où on croit effectivement comprendre les choses. Et puis, on a toute cette face cachée qu'on ignore et qu'on découvre en yoga nidra. On rentre en contact avec cette inconscient, on rentre en contact avec toute cette partie de nous-mêmes qui nous échappe, et on découvre effectivement ce que c'est que l'intuition. Et effectivement, partir en Italie, rencontrer Maurice, quelque part, c'était une intuition. Ouais. Quelque part, voilà. Je savais que j'avais quelqu'un à rencontrer là-haut. Je pensais que c'était son fils, mais en fait, c'était les deux. C'était à la fois Patrick et Maurice qu'il fallait que je rencontre. Et ouais, c'était une très belle rencontre quand ça a eu lieu. Ça m'a vraiment touchée parce que, effectivement, Maurice est pour moi la figure du gourou, quoi. C'est vraiment cette personne qui transcende une autre force, qui me l'a montré. De par sa présence, de par sa parole, de par ses actions. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment en cohérence complète entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il nous montre. J'ai vu en lui quelque chose de très différent que je n'avais pas encore perçu chez d'autres personnes. Oui. Et en ce sens-là, voilà, c'est vrai que pour moi aussi, c'est un maître. Oui.
C'est beau ce que vous dites, parce qu'effectivement, lorsque je l'ai rencontré, j'ai ressenti aussi, et lorsque je l'ai interviewé aussi, parce que, bon, on peut trouver une entrevue sur YouTube avec lui que j'ai fait grâce justement à Patrick, son fils, qui m'a permis d'ouvrir cette porte et d'avoir une conversation franche avec lui, que il est authentique. Il est authentique, il ne se prend pas pour personne autre que qui il est véritablement, et il nous incite à dépasser nos limites. Et je suis tout à fait d'accord lorsqu'il dit que vous êtes une femme, une mère qui est rassurante. Parce que lorsqu'on vous rencontre, moi, ça m'a épaté votre agilité à vous adapter selon les personnes qui sont devant vous. Est-ce que la peur pour vous, ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma question, c'est, est-ce que ça existe pour vous? Pour vous, qu'est-ce qui est plus fort, la peur ou l'amour?
C'est la même chose. La peur, c'est encore notre inconscient qui nous manipule. Encore une fois, si vous avez peur de quelque chose, allez-y. Surtout, allez-y, parce que vous allez apprendre des choses incroyables sur vous-même que vous ne soupçonnez pas, quoi. J'encourage tous ceux à qui je parle, tous ceux que je rencontre, à faire face à ces peurs. Parce que le jour où on prend les choses en main, le jour où on se dit oh, « ça me fait tellement peur » et qu'on a le courage d'aller là-bas, d'aller vers ce territoire qui nous paraît tellement ou dangereux ou... Peu importe ce que cache cette notion de peur, allez-y. Vous allez découvrir que vous êtes fort, que vous êtes grand, que vous êtes beau. Voilà, ça c'est vraiment la base en fait. Donc je l'avais un peu perçu avant de rencontrer Maurice, mais il m'a vraiment poussé dans cette direction-là complètement. Ouais, il m'a fait comprendre ou toucher du doigt, pas forcément verbalement d'ailleurs, hein, que effectivement. Au-delà de la peur, il y avait justement cette zone qui a franchi toutes les frontières et qui, pour moi, est l'amour. Pour moi, c'est ça. C'est quand on va au-delà de ces peurs, on rencontre vraiment le véritable amour. On rencontre effectivement cette zone où on n'a plus peur de manquer de quelqu'un, on n'a plus peur de manquer de quelque chose, on n'a plus peur de toutes ces choses qui sont des conditionnements, je pense. Hein, qui sont liés à ce qu'on a vécu quand on était petit, ou ces blessures qu'on n'a pas su réparer, ou qu'on n'a pas pris le temps de réparer, toutes ces choses qui nous handicapent sans qu'on le voie hein, la majorité du temps. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. La majorité du temps, on est aveugle à nous-mêmes.
Effectivement. Merci beaucoup. On est souvent aveuglé par les perceptions du mental, hein, les trois mondes, le monde physique, le monde extérieur aussi. Anne Laurenceau, tout de suite, j'aimerais que l'on mette les mots dans leur contexte. Là, je parle du titre que nous avons choisi lorsqu'on s'est rencontrés à préparer cette entrevue qui est « Science, immortalité et yoga ». Et naturellement, les perceptions du mental pourraient nous laisser croire que ça y est, nous avons devant nous une Anne Laurenceau qui a perdu le sens véritable de ce que les mots veulent dire, alors qu'en réalité, si vous pouvez justement nous mettre dans le contexte de ce que signifie pour vous le yoga, la science, l'immortalité, qu'est-ce qui va en premier, qu'est-ce qui va dans le milieu, parce qu'on dit souvent que le yoga, c'est un art. Pour vous, le yoga, c'est un art ou une science?
Alors là, il faudrait que je planche sérieusement sur la question. je pense que... Oui, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Je pense que c'est une science dans le sens où il y a quand même des milliers d'êtres humains qui ont pris cette approche, qui ont suivi les conseils d'un maître la majorité du temps et qui ont vécu des choses similaires ou semblables. Donc à partir de là... Si en science, on fait une expérience et on la répète et elle donne toujours le même résultat, et bien voilà, on est face à quelque chose qui est véritable. D'accord ? Donc, si à travers les arts du yoga, chaque être humain arrive à se rencontrer lui-même et à faire effectivement l'expérience de cette grande liberté intérieure, alors on peut qualifier ça de science. On peut effectivement dire qu'effectivement, tous ces gens qui nous éclairent, de Patanjali jusqu'à nous, à travers toutes ces personnes qui ont fait ces expériences, et ben, elles nous parlent bien d'une vérité. D'accord ? Et la science, c'est ça. La science, c'est effectivement, par l'expérience, par le travail répétitif, en mettant des conditions identiques dans un laboratoire ou sur un terrain donné, les réunissant et en faisant systématiquement les mêmes observations, voilà, on décrit quelque chose de véritable, on décrit une vérité.
Alors que en yoga, le laboratoire, c'est nous-mêmes. Donc, comment on peut demeurer objectif par rapport à une expérience personnelle comparativement à des éprouvettes, à des objets, des êtres vivants externes à nous. Comment vous situez-vous par rapport à cette dichotomie?
Mais c'est là où effectivement, c'est difficile et on tombe dans le domaine des sciences humaines, où effectivement, chaque être humain a son expérience, chaque être humain a son ressenti et il va pouvoir ou pas les mettre en mots. Et c'est là où vient toute la difficulté et probablement aussi la complexité de l'être humain. Ah, pourquoi telle branche du yoga va être plus à même à aider les hommes à se révéler à eux-mêmes plutôt que telle autre? Pourquoi est-ce que le yoga nidra m'a porté moi plus loin que peut-être une autre forme de yoga? Pourquoi pour Daniel, peut-être que c'est plus un aspect méditatif qui va l'aider à rentrer en contact avec lui-même ou que pour une autre personne, il va falloir faire du Ashtanga pendant 10 ans pour rentrer en contact avec soi-même. Voilà, j'ai pas la réponse. Mais on peut effectivement se dire que l'être humain est d'une complexité tellement grande que... Voilà, chaque être humain va avoir un ressenti différent et du coup, il va devoir expérimenter sur des terrains un peu différents.
Oui. Ouais. Merci. Oui, effectivement. Merci. Effectivement, Anne Laurenceau, je suis très, très reconnaissant que vous acceptiez de répondre à ces questions puisque nous n'avons pas vraiment établi une feuille de route très rigide avec les questions déjà préparées à l'avance. Et donc, l'intuition pour vous, ça joue une grande partie dans votre vie. L'éveil spirituel pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on définit un éveil spirituel?
Alors là,
Je ne sais pas.
C'est la meilleure réponse que je n'ai jamais eue jusqu'à date. Merci.
Je ne sais pas. Ouais, bon, effectivement, on décrit deux formes. Hein. On décrit l'éveil spirituel à travers le gourou ou l'éveil spirituel à travers le wahe-guru, celui qui est à l'intérieur.
Mm-hmm.
Est-ce que pour moi, on a besoin des deux? Est-ce que l'un est prédominant sur l'autre? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'effectivement, la forme intuitive que j'ai ressentie à travers le yoga nidra, c'est peut-être plutôt ce qu'on va qualifier de wahe-guru. Maintenant, Maurice m'a été indispensable dans le sens où il a su mettre des mots en face de moi qui m'ont secoué, qui m'ont révélé à moi-même parce que j'ai osé faire face à certaines de mes peurs. J'ai osé aller au-delà de certaines barrières que je ne soupçonnais pas au démarrage. Un jour, j'ai discuté avec un de mes professeurs de yoga. Il me dit, mais fais la liste de tes peurs et reviens la prochaine fois, on en parlera. Et donc, je me suis trouvée face à cet exercice. J'ai fait la liste des peurs que j'avais vaincues, mais la liste des peurs que j'avais encore, je ne la connaissais pas. Et en fait, on est tous comme ça. On croit dominer certaines de nos peurs. D'autres, on les soupçonne. Mais on a encore une liste de tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là où je pense que c'est vraiment un travail constant de découvrir qui on est, quoi. Parce qu'au fur et à mesure de notre chemin, on se révèle à soi-même. On se rend compte de nos limites. Et je dirais, c'est du pas à pas, quoi. Au fur et à mesure, on arrive à grimper cette échelle. Et peut-être que c'est ça, l'éveil. Peut-être que c'est effectivement arriver à se rendre compte que ce chemin est infini, quoi. Et qu'il faut avoir le courage d'avancer. Voilà. C'est peut-être ça, l'éveil spirituel. Avoir le courage d'avancer. Le courage de vivre. J'aime bien ça, le courage de vivre.
Ouais, merci beaucoup. Effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup cela. Anne Laurenceau, vous parlez au sujet de vos découvertes comme étudiante et chercheuse en sciences naturelles, des questions que vous vous êtes demandées, ce que nous, les êtres humains, sommes au naturel.
Oui.
Et vous ne considérez pas que votre démarche scientifique vous a permis de vous découvrir sur ce chemin et comment vous intégrer cette vie de chercheuse scientifique et cette vie de chercheuse dans le vaste océan qu'est le yoga.
Oui. Je pense que la science m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, quand on entreprend une démarche scientifique, on apprend d'une part à utiliser son raisonnement, et ça c'est vraiment très important, hein, arriver à essayer d'être rationnel dans ses pensées, essayer d'arriver à être concentré sur ses pensées. Donc ça, c'est un grand apprentissage en soi-même. Maintenant, si effectivement pour faire ce travail, il faut être intelligent, intellectuellement, ça ne nous aide pas à nous découvrir sensoriellement ou spirituellement. Là, on est loin d'une quête... d'une quête sensorielle ou spirituelle. Donc, ce penchant intellectuel est intéressant et très développé dans nos sociétés occidentales, mais quelque part, il occulte toute une partie de nous-mêmes, quoi. Et effectivement, c'est grâce au yoga que j'ai pu aller rencontrer cette partie-là de moi-même. Donc ça, c'était très important. Ouais. Maintenant, je pense que... tous les grands scientifiques, je pense, sont des gens très intuitifs. Et j'aime bien, moi, les citations de Poincaré, qui était un mathématicien, qui disait, au démarrage de toute grande observation, il y a une intuition. Et après, il nous faut trouver le chemin. Voilà, c'est comme ça que Poincaré expliquait son travail de mathématicien. Donc, cette intuition, et après, on utilise sa réflexion intellectuelle pour aller d'un point A à un point B. Et je pense que du coup, voilà, cet aspect très, très intellectuel, très, très orienté au niveau des pensées, ne peut pas se suffire à lui-même. Il faut effectivement cette ouverture vers une compréhension sensorielle des choses qui nous aide à guider les pensées, qui nous aide à orienter nos recherches, qui nous aide à poser les bonnes questions éventuellement. Et c'est là où, voilà, se connaître soi-même et aller à la rencontre de tout cet espace intuitif et sensoriel, c'est vraiment capital, quoi. C'est vraiment capital. Pour tout le monde, mais également pour les scientifiques. Ouais.
Ben, si on pense, par exemple, dans le domaine de la médecine, c'est certain qu'un médecin doit utiliser cette intuition. Il ne peut pas faire passer 250 tests à toutes les fois à un patient qui vient de voir parce qu'il a mal au ventre, par exemple. J'adhère tout à fait et je vous remercie de mettre... de mettre cette notion de l'intuition en contexte parce que ça revêt un champ qui on le souhaite un jour deviendra une expertise reconnue scientifiquement. Anne Laurençon, si par exemple on revient au yoga nidra, il y a des découvertes scientifiques qui se font et au niveau justement des états de conscience supérieure, par exemple, on parle du quatrième état, le kriya, la porte, la maison, cet état où tout est possible, alors que cette technique est utilisée depuis des centaines et des centaines d'années. Elle a été naturellement, elle a été mise à jour de façon contemporaine par Satyananda, ce grand maître, sauf que ce n'est pas nouveau. Comment le monde scientifique vous perçoit? Est-ce que vous gardez votre vie spirituelle, votre démarche au niveau de votre recherche à vous connaître vous-même séparée, secrète de votre emploi à temps plein?
Alors, pas vraiment, c'est-à-dire je ne vais pas l'afficher, je ne vais pas effectivement aller voir mes collègues en leur disant que je suis un yogi et que je vois qu'ils souffrent de tel ou tel aspect. Je pense que ça serait très mal perçu par mes collègues. Parler de spiritualité dans le contexte des sciences biologiques, c'est aussi quelque chose de très difficile, donc on aborde très peu cet aspect-là entre collègues. Par contre, je suis très heureuse cette année d'avoir rencontré un autre yogi dans l'espace du CNRS, donc, qui est donc mon employeur, qui est l'Institut de Recherche Fondamentale de France. Lui, il est astrophysicien et voilà, il a vraiment poussé sa démarche yogique loin également et c'était très enrichissant de discuter tous les deux. Et lui non plus ne veut pas... parler ouvertement à ses collègues de ce qu'il vit en termes de yoga. Par contre, il l'affiche beaucoup mieux dans le sens où, lui, voilà, tous les deux, on a un point commun qu'on laisse pousser nos cheveux. Ça a été une intuition, lui, ça a été un choix. Mais du coup, il laisse pousser ses cheveux sans les coiffer. Moi, je fais l'effort matinal de brosser tout ça, alors que lui, il les a laissés former des dreadlocks. Donc bon, bah là, il informe tout le monde tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier dans sa vie. Mais en fait, les collègues ne lui posent quasiment jamais de questions à ce propos-là, qui montre bien que voilà, la communauté est quand même très conservatrice et ne va pas trop fouiller dans ce genre d'aspect. aspect spirituel ou plus poussé. Ouais. Maintenant, depuis une petite dizaine d'années, il y a quand même des choses qui bougent très fort dans la communauté scientifique, notamment au niveau des neurologues et neurologistes, qui, eux, se posent la question, effectivement, de qu'est-ce qui se passe donc dans le cerveau de ces gens qui font de la méditation, qui vont dans ces états modifiés de conscience très particuliers et qui vont donc scanner les gens quand ils se mettent en état de méditation et regarder quelles sont les modifications d'activité dans le cerveau. Voilà, donc ces gens-là entreprennent vraiment sérieusement de comprendre ce qu'il y a de différent entre un cerveau qui va être au repos, à qui on demande une tâche particulière, chez une personne qui n'a pas l'habitude de faire de méditation, qui n'a pas l'habitude d'aller dans des états particuliers, et le cerveau de personnes qui sont ou des moines bouddhistes ou des gens qui effectivement pratiquent des techniques de concentration ou corporelle ou spirituelle. Et là, on observe des choses. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'approche qui, aujourd'hui, est porteuse de sens entre spiritualité et humanité. Quoi. Arriver à voir ce qui se passe au niveau du cerveau. C'est une première approche. Et maintenant, on commence à l'étendre à d'autres champs d'investigation, notamment la génétique. Et ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, les gens qui utilisent les techniques de centrage corporel ou spirituel vont avoir moins de problèmes inflammatoires, vont mieux réguler leur taux de glycémie. Il y a beaucoup de changements physiologiques associés qui font que ces gens-là sont en meilleure santé. Donc voilà, on est vraiment à l'aube. Là, on est dans une phase de transition. On est vraiment à l'aube d'arriver à comprendre ce que nous apportent toutes ces techniques dérivées de pratiques corporelles ou spirituelles.
Ouais.
Donc là, c'est vrai que c'est une période vraiment très intéressante pour un scientifique. Et moi, je commence à vraiment explorer ces genres d'investigation en termes de lecture parce que je trouve ça vraiment passionnant. Effectivement, on puisse maintenant aller explorer au niveau scientifique toutes ces techniques qui nous viennent depuis des millénaires, essentiellement d'Asie, hein. Oui.
Ouais.
Ouais. Très intéressant. Ouais.
Ce sont des techniques millénaires, effectivement, qui viennent de l'Asie. On dit que le yoga est d'origine de l'Inde, alors que d'autres vont même localiser la vraie source du début du yoga du temps de l'Égypte. Anne Laurenceau, justement, puisqu'on a seulement effleuré le sujet de l'immortalité, parce que on peut extrapoler dans votre travail une pensée à une forme, à une puissance, à une portée, et parfois vous vous mettez justement à imaginer que ce que vous faites comme travail pourrait être utile à l'humanité. De façon concrète, croyez-vous que la communauté scientifique va un jour permettre à des scientifiques d'aller au fond de la question et de cesser d'être, on dit en québécois, frileux, hein, d'avoir un peu froid sur des questions qui sont très subjectives, qui peuvent peut-être même déranger. Hein. On voit d'une part l'humanité qui vit, qui est dans une lancée de découvertes scientifiques et de progrès pour l'humanité extraordinaire, très rapide, exponentiellement. Alors que d'autre part, on voit une partie de l'humanité qui souffre, il y a des famines, il y a des conflits. Comment vous situez justement le rôle de la science par rapport à résoudre des problèmes aussi fondamentaux, simples et en même temps très complexes?
Ah, c'est une vaste question, hein. Oui. Je pense que la science ne peut pas résoudre les problèmes. Je pense que la science est là pour décrire le monde, décrire comment les choses évoluent, comment les choses sont organisées, comment les organismes fonctionnent, ou comment la matière se crée et décomposée. Enfin, voilà, on peut vraiment décrire le monde.
Comme un véhicule,
maintenant,
comme un auto, comme un mantra.
Oui, c'est ça. On peut effectivement, oui, comme effectivement, on peut observer une voiture et puis se dire en l'observant, mais à quoi sert le volant? Et la science peut décrire ce volant sous plein d'angles différents. Il va dire, bah voilà, quand on regarde toutes les voitures, les volants sont plutôt ronds, plutôt comme ci, plutôt comme ça. D'autres approches scientifiques vont pouvoir dire, ben, à chaque fois qu'on enlève le volant de la voiture, elle ne tourne plus, elle va toujours tout droit. Voilà. Un autre scientifique va pouvoir dire, ben, le volant, il fait toujours de l'ordre de 500 grammes. Voilà, j'ai un chiffre au hasard. Hein, je me rends pas
compte. Oui, absolument.
Voilà, donc on peut décrire les choses, mais après, à quoi sert la voiture et qui a imaginé qu'il y avait un volant et comment tout ça, voilà.
Et à quoi ça sert?
Ouais, c'est plus une approche scientifique, c'est plus une approche, une quête de sens. Et je pense que la science n'est pas là pour ça.
Alors qu'en agriculture, je m'excuse de vous interrompre, Anne, parce que l'exemple que je donnais, je comparais la science... comme étant un véhicule, la science même étant le véhicule qui nous amène vers quelque chose, dans le sens qu'il faut cesser de reprocher à la science de ne pas résoudre des problèmes. Est-ce que ce serait dans ce sens-là que vous percevez le futur improbable pour résoudre les grands problèmes de l'humanité?
Je pense qu'effectivement, la science n'est pas là pour résoudre les problèmes de l'humanité. La science est là pour donner un éclairage sur ces problèmes.
D'accord.
On peut effectivement faire des calculs, montrer comment, peut-être, quel exemple on pourrait prendre. On peut tout à fait, par exemple, décrire la pêche, décrire comment les poissons vivent entre eux, comment ils se reproduisent, comment ci, comment là, et du coup, imaginer des scénarios pour éviter la surpêche, arrêter de pêcher quand les poissons se reproduisent, etc. etc. Mais c'est aux hommes à prendre ces informations-là en main et en faire quelque chose d'utile.
Et voilà.
Là, c'est plus la science. C'est effectivement les hommes qui doivent s'organiser, s'entraider, donner un sens aux informations que les scientifiques peuvent fournir aux hommes.
D'accord. Voilà. D'accord.
Ouais.
Alors, ça.
Et donc face à la souffrance humaine,
oui,
la science peut proposer des solutions, mais ne peut pas dire ça c'est la solution, parce que chacun a sa culture, chacun a ses ressentis, chacun et peut-être qu'une solution qui marchera d'un côté de la planète sera complètement inefficace d'un autre côté de la planète. Et c'est là où je pense que c'est à chaque être humain à prendre les informations nécessaires et à concocter sa propre recette, quoi.
Mm-hmm.
Il me semble que c'est la façon la plus juste que j'aurais pour faire les choses.
Ben oui, merci beaucoup. C'est naturellement votre point de vue personnel. C'est Anne Laurençon,
oui,
avec votre bagage, votre vécu, votre expérience et vos connaissances. Alors que si je retourne la même question, Anne Laurençon, scientifique qui travaille dans le domaine de la recherche fondamentale, si je retourne la question du côté du yoga, bien,
oui,
je pourrais de la même façon faire un blâme, parce que bon, les mots sont limitatifs, là. Je manque de mots. Mais si vous me laissez vous présenter mon point de vue du côté du yoga, il semblerait que le yoga ait cette méthode d'intériorisation. Vous avez parlé de Waheru Guru, hein, du domaine en Kundalini Yoga. On est vraiment, vraiment intériorisé. Nous sommes le centre d'énergie, le soleil. Hein, oui. Je ne veux pas utiliser des termes qui sont péjoratifs ici. Par contre, cette méthode est très égoïste. Moi, je connais un cas réel d'un professeur de yoga qui est décédé d'un accident tragique. Et il laisse derrière lui sa femme, des enfants, et parallèlement, une communauté dans cette localité qui avait un temple hindou vive un deuil pour une autre personne. Et automatiquement, la communauté s'est mise ensemble pour cette autre personne. Ils se sont réunis à l'église dans leur lieu de rassemblement. Et là, ils ont développé des réponses, des solutions. Bon, la mère, la femme qui est laissée seule, moi je vais m'occuper des enfants, moi je vais m'occuper de l'épicerie. Et donc je reviens à ce yogi qui de façon tragique est décédé, et on téléphone à l'endroit où il enseignait, et on se fait dire, on va envoyer des fleurs, on va prier, on va méditer pour lui. De façon concrète, c'est un peu égoïste. Quand j'enseigne, je suis enseignant de yoga, vous aussi, les gens partent après un cours, ils sont dans leur bulle, comme on dit. Hein, ils s'en vont.
Oui.
Ils se sentent bien. Le syndrome, pas dans ma cour. Comment vous vivez ça? Comment vous voyez cette dichotomie qui existe aussi du côté du yoga?
Oui, absolument. Là, j'aurais deux commentaires. Le premier, c'est effectivement, je pense qu'on ne peut vraiment, réellement, être ouvert aux autres que si, effectivement, on est bien intériorisé. J'aurais ça comme premier commentaire, qu'effectivement, avant d'être capable de s'ouvrir aux autres et d'être vraiment utile pour la communauté de façon pleine et entière, il faut avoir rencontré à l'intérieur cette force qui nous aide à ça, qui nous aide à pouvoir tout donner aux autres, sans se mettre nous-mêmes en danger. Hein, ça, c'est vraiment important. Oui. Et puis... le deuxième commentaire que j'aurais, c'est effectivement, est-ce que c'est pas la faute, entre guillemets, hein, s'il faut dire, est-ce que c'est pas de la responsabilité de chaque professeur de yoga, justement, d'être suffisamment ouvert pour pouvoir dire aux autres et être suffisamment attentif aux autres de façon à former une communauté. Voilà. C'est pas simple, hein? C'est pas simple, mais effectivement, je pense que tant que notre travail intérieur n'est pas complet, on n'est pas suffisamment ouvert aux autres, on n'est pas suffisamment prêt à les aider, à pouvoir donner cet élan qui fait qu'effectivement, il y a une communauté qui existe, qui fait qu'effectivement, les gens sont prêts à s'entraider. Les gens sont prêts à être présents les uns pour les autres et à être des piliers les uns pour les autres. Oui, ça j'y crois, oui. Mais ça demande un sacré accomplissement spirituel, quoi. Et donc effectivement, les très grandes communautés religieuses, il y a probablement dans les très grandes communautés religieuses déjà des gens qui spirituellement sont assez forts pour incarner ce mouvement-là de va-et-vient de soi à l'autre.
Oui.
Et puis il y a le nombre, hein, il y a le nombre qui fait qu'effectivement, on est face à des grandes communautés, donc c'est plus facile d'être solidaire. Alors que peut-être que dans le monde du yoga, si chacun prêche pour sa chapelle, pardon,
oui.
J'espère que l'expression existe en
Oui, ça se ressemble. Ici, on dit paroisse.
En québécois, ouais.
Ouais,
voilà,
ouais.
Bon, chacun prêche pour sa paroisse, bah c'est cuit, quoi. On n'est plus une communauté, on n'est plus ouvert aux autres et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne
ouais.
pas.
Ouais.
Donc, bon, bah voilà, tant que le yoga est à la mode et que chacun veut tirer la couverture à soi, bah, on n'est pas dans cet esprit-là. On n'est pas dans le véritable esprit qui devait être celui du yoga, qui est effectivement l'ouverture à l'autre inconditionnelle. Mais ça, ça demande un travail remarquable. Il y a très peu de gens qui en sont capables, quand même. Hein ouais, ouais.
Je non, c'est pas assez.
On est loin de trouver en chaque professeur de yoga cet être capable de donner, quoi.
Ouais. Ça commence par le don, effectivement. C'est très sage que vous dites, Anne. J'ai une pièce musicale à vous dédier. Je m'en voudrais si on n'écoutait pas cet extrait d'une musique classique d'un auteur qui s'appelle W. Bird, qui a été aussi interprété par une invitée que j'ai eue au micro de Yoga Partout, qui se nomme Anouk Thibault. Si vous me permettez, avant qu'on entre dans le sujet des sutras, parce que oui. la suite de notre conversation, de votre réflexion, nous amène naturellement à parler de Patanjali, des kleshas, hein, de ces afflictions oui. que les êtres humains dont nous sommes tous affligés. Et donc, oui. Permettez-moi, on va faire une petite pause musicale avec une courte pièce qui dure quelques minutes. Et après nous reviendrons avec Anne Laurenceau. C'est un grand privilège de vous avoir. Je suis très reconnaissant de pouvoir avoir cette discussion avec vous et de la partager avec la communauté du yoga en français. Donc, ça va pour ça. On écoute un peu de musique.
Oui, merci Daniel.
D'accord.
Thank you.
Alors voilà, c'était un extrait de cette pièce musicale que je voulais vous dédier, vous faire entendre, puisqu'elle représente beaucoup de la paix, la sérénité, l'intégrité. Et voilà, j'ai quand même écourté un peu cette pièce, puisque le temps file. Vous êtes en France, vous avez des obligations, vous avez accepté de faire en sorte que le temps cesse. De rouler rapidement pour accepter cette invitation. Merci beaucoup, Anne Laurençon. On parle de sutra, on parle de yoga, de ce qui est important dans le chemin spirituel, puisque un enseignant de yoga, l'incontournable Patanjali, je vous avais demandé de parler d'un de vos sutras qui vous touche tout particulièrement. Et vous avez choisi le sutra du chapitre 3, verset 11. Parlez-nous un peu de ce texte qu'est Patanjali, l'importance qu'il revêt dans votre cheminement spirituel, s'il vous plaît.
Bien sûr, oui. Au démarrage, j'en avais choisi quatre. Je les
Ah!
avais tous relus. Quand tu m'as demandé, Daniel, trouve un sutra, j'étais là, oh là là. Je les ai tous relus un par un et j'en ai sélectionné quatre parce que c'est les quatre qui probablement me parlent le plus aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Et j'ai fini par me décider sur celui-là. Parce que pour moi, c'est celui qui parle à tout le monde. Les autres, c'est peut-être plus difficile pour la majorité des gens. Et du coup, je me suis dit, bah, si on fait une interview, il faut que ce que j'ai à dire puisse toucher la majorité des gens. Donc, c'est vraiment celui-là que j'ai choisi pour ça. Parce qu'effectivement, bah, ce que je vois autour de moi tous les jours, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, dans le cadre familial, dans la rue, c'est les gens en souffrance. C'est rare de croiser des gens qui sourient, des gens qui sont prêts à vous dire bonjour, des gens qui juste qui sourient en retour d'un sourire. Voilà, moi je suis quelqu'un de souriant depuis toujours, déjà sur les bancs de la fac. Les gens qui venaient d'autres pays, on a beaucoup en France de gens qui viennent du Maghreb ou d'Afrique noire parce que voilà, on a un historique en tant que Français, quoi, qui fait qu'il y a des accords entre les différents pays et la France. Et ces gens-là venaient toujours vers moi parce que je souriais. Mais au début, c'est voilà, c'est difficile à comprendre et puis petit à petit, on se pose des questions, quoi. Mais effectivement, on regarde autour de soi et on voit que c'est rare en fait de croiser des gens qui sourient. Et c'est ça pour moi, c'est ça le drame humain, c'est de s'enfermer dans sa souffrance et du coup de se couper de l'autre, quoi. Et donc, ce sutra nous parle de ça. Ce sutra nous dit, regardez, regardez pourquoi vous souffrez. C'est pas pour 50 000 raisons. Il ne dit pas, Patanjali, il ne dit pas, c'est pas parce que vous manquez d'argent, c'est pas parce que votre mari ne vous a pas embrassé ce matin, c'est pas parce que ceci ou cela. Non, il va nous chercher quatre termes, c'est ça ou cinq? Excuse-moi, j'ai plus la phrase sous les yeux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Il va nous chercher cinq termes. Le premier, la base, la méconnaissance. On est dans l'erreur. On est dans l'erreur et on ne cherche pas à corriger nos erreurs. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base numéro un. C'est effectivement, si quelque chose ne va pas dans ta vie, apprends. Apprends de ce qui ne va pas. Trouve ce que tu pensais être juste qui ne l'est pas. Voilà. Recherche la vérité dans chacun de tes pas. Ça, c'est vraiment la base. C'est apprendre de toutes nos erreurs, qu'elles soient dans la conception des choses, qu'elles soient dans la façon dont on fait les choses, apprendre. La deuxième, l'ego. On est quoi? Mais pour qui on se prend? Voilà. Pourquoi, si l'autre il a une voiture plus jolie que la mienne, ça m'irrite? C'est quoi le problème avec ça? C'est ça, hein? On s'identifie à des trucs. Est-ce que c'est vraiment nous? Une fois qu'on s'est posé cette question-là, les choses s'éclairent quand même. Quand même, ça va mieux, hein? On se rend compte qu'on est bien puéril, quoi. qu'on est bien, bien ridicule si on prend le temps de juste s'asseoir et d'essayer de voir pourquoi on est irrité par des choses aussi bénignes, quoi. Mm-hmm. L'attachement, moi ça c'est l'attachement, c'est celui qui m'a été le plus difficile en fait. Effectivement, ça veut dire quoi être attaché à quelque chose, quelqu'un, comment on se détache ou comment on est dans le non-attachement, comment on peut aimer sans s'approprier les choses ou les êtres, ça c'est difficile, hein. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. La répulsion, bah là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la peur, quoi. Quand on fuit quelque chose, c'est peut-être qu'il faut qu'on se questionne et qu'on aille au fond de pourquoi on a peur des choses, quoi. Qu'est-ce que c'est ce réflexe de retrait, ce réflexe de protection qui fait qu'on se coupe des autres, qu'on se coupe de la vie. Voilà. La peur de ce qui nous entoure, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on travaille pour ne plus souffrir, pour effectivement accueillir chaque jour, chaque seconde, chaque petite chose comme un cadeau, quoi. Comme si effectivement on renaissait à chaque moment. Voilà, donc c'est vraiment celui qui pour moi me semblait le plus porteur de tous ces sutras que j'ai relus avec beaucoup de joie. Merci de m'avoir imposé
la lecture. En fait, vous voyez, vous venez de faire le lien avec la prochaine et dernière, le dernier sujet de discussion qui touche la joie parce que le passé, le présent, le futur se confondent et justement, hein, Sukha, hein, la joie, pour vous, c'est important là, d'être en paix avec tout le monde. Je l'ai compris dans vos discussions, dans vos réflexions, dans vos commentaires. La vie n'a pas de sens. S'il n'y a pas de joie, comment ça se traduit quotidiennement, envers et malgré tout, le fait qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des mésinterprétations et que les égos sont gonflés à bloc. On peut même parler d'égos nationaux et des pays au complet, des continents. Leur égo est gonflé et ça prend un petit rien pour hériter. Comment vous vivez ce détachement par la voie de la joie?
Je crois qu'il faut la sentir, cette joie. Mm-hmm. Une fois qu'on l'a sentie, on est vraiment en contact avec qui on est profondément. Ça, c'est un autre sutra, je crois. Ça fait partie des quatre que j'avais fini par retenir.
Ah oui.
Et alors, la formulation en français qui serait la meilleure, je la connais pas, mais je vais la dire comme je la sens, c'est quand le pratiquant s'approche de sa nature profonde, il trouve la joie. Quand on est en paix avec soi-même, quand on ouvre les yeux sur le monde, on est en joie. Ça peut pas être autrement. On peut pas ignorer la souffrance, hein, ça, je suis complètement d'accord. Et en tant que qu'être humain, il faut être sensible, il faut être attentif aux souffrances qui nous entourent. Mais quand on porte la joie, eh ben cette souffrance-là, non seulement on la néglige pas, mais on l'éclaire quelque part. Et même une personne en détresse, elle sera tellement contente d'avoir un sourire, tellement contente d'avoir un regard qui est lumineux, qui n'est pas terne, qui n'est pas moribond, que ça va l'attirer vers le haut. Ça va l'aider à peut-être avoir un peu d'espoir dans sa vie, qui est si triste aujourd'hui. Donc, cette joie-là, il faut qu'on la porte, nous, étudiants en yoga. Il faut qu'on l'allume en nous-mêmes, je dirais. Et c'est vraiment important, c'est vraiment important. Et Je ne sais pas si la vie n'a pas de sens sans joie. Je n'irai pas jusque-là quand même. Par contre, je dirais que si on porte la joie, on ne cherche plus un sens. Le sens est là, quoi. Le fait qu'on puisse vivre en joie, le fait qu'on puisse vivre en paix, c'est le sens. C'est ça. C'est effectivement porteur de tellement d'amour, tellement de lumière pour tout ce qui est autour de nous que on n'a plus besoin de se martyriser à coup de questions, à coup de j'ai besoin de comprendre le sens de ma vie ou de machin ou de trucs. C'est hors propos. Je pense que ça devient hors propos.
Merci beaucoup. On pourrait se baigner dans vos paroles, Anne Laurençon, à 5 degrés sous zéro. Je suis en train de
Tout le monde
regarder
dans l'eau
aussi.
froide.
Et voilà. Je suis en train de regarder, de contempler les photos que vous avez gentiment partagées avec nous sur Yoga Partout. On peut revoir ce diaporama et on vous voit comme ça en train de méditer alors que il y a des gens qui portent des chapeaux et les chapeaux sont tout blancs, la neige tombe. On devine que vous
Oui.
êtes quelque part là, et donc c'est garanti qu'il fait froid. Toutes les photos ont
Oui.
une signification et nous y avons parlé
Oui.
presque de façon intuitive. Il y a l'Ashtanga qui se retrouve, le croissant de lune qui fait un grand sens. Naturellement, votre rencontre avec Maurice Debord, notre rencontre. Nous deux aussi, lorsque vous êtes venus ici visiter. Et puis, il y a une question, je me demande, vous avez envoyé une photo de chien qui se roule dans la neige.
Oui.
Est-ce qu'il y a une histoire derrière cela?
Il y en a plein. Je vais faire un petit commentaire sur les assises dans la neige, parce que c'est vrai que
Oui.
j'ai tiré deux photos d'assises dans la neige. Ces deux souvenirs-là, c'est ouf. C'est donc quand on pratique l'assise matinale avec Maurice, donc on attend le lever du soleil en fait, hein. On a 1 heure en assise dans la neige. Donc si on y est prêt, bah, voilà, on est en maillot de bain et hop, c'est parti mon kiki. Si on n'est pas trop prêt, on garde une petite doublure, on fait ce qu'on peut, quoi. Et parfois, c'est des matins très lumineux, il y a un grand soleil et malgré le froid, on est baigné dans dans ce soleil qui nous arrive dessus. C'est juste presque, vous allez me rire au nez, mais un plaisir parce qu'effectivement, voilà, on est tellement réchauffé par ces rayons lumineux qu'on le vit vraiment avec une certaine légèreté. Puis des fois, c'est comme ces deux photos, c'est une vraie tempête. Il y a un vent terrible, une neige, on se retrouve avec 10 cm de neige sur la tête. Ça ne fond pas parce qu'il y a les cheveux, par contre, sur tout le reste du corps, la neige au fur et à mesure fond, donc on est complètement trempé par l'eau glacée qui nous tombe dessus, quoi. Et c'est dur, ouais, c'est très dur, mais quelle découverte, quelle incroyable découverte de voir qu'on peut le faire, qu'on peut rester là. On peut respirer à travers ça, on peut grandir avec ça, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et puis cette photo de chien, ben c'est en fait le chien de ma famille, voilà. C'est un chien qu'on a fini par récupérer parce que voilà, bon, il a son histoire et qui nous a accompagnés les quelques fois où on est monté donc jusqu'en Italie auprès de Maurice en hiver. Et oui, quand on le voit heureux se rouler dans la neige, mordre dans la neige, sauter comme un kangourou dans les mètres de neige, on se dit que c'est ça, quoi. Lui aussi, il sent le froid, mais lui, il nous montre qu'il y a une vraie joie, il y a une vraie extase à aller au contact des éléments, se rouler dedans, s'amuser dans la neige, et c'est ce qu'on fait avec Maurice, quoi. Parce qu'effectivement, bah, on y va, quoi. Allez, hop, c'est parti. On aura froid pendant 1 heure, mais qu'est-ce qu'on grandit, quoi. Qu'est-ce qu'on est beau quand on fait face à toutes ces intempéries et qu'on y arrive.
Oui.
C'est ça qui est incroyable. C'est qu'effectivement, quand on veut bien faire face aux éléments et plus se réfugier dans ses peurs et ses angoisses, ben dis donc, on en fait du chemin, c'est assez fantastique. Donc voilà, cette photo du chien qui se roule dans la neige, pour moi, c'est ce symbole, c'est cette joie qui nous montre à y aller, quoi. Oui, il aura froid, hein, il sera comme nous, hein, quand il va rentrer, il va se secouer dans tous les sens, il sera ravi d'aller se bottir contre le radiateur. Mais qu'est-ce qu'il en profite quand il est dehors, ouais, c'est ça la leçon, c'est allons-y les amis, ouais. Profitons-en, quoi.
Oui,
c'est ça.
Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Je vous avais invité à faire cette émission de radio web pour fixer dans le temps ce moment privilégié que vous m'avez permis de partager avec vous, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, nous étions des inconnus, nous sommes toujours des inconnus, sauf que nous étions aussi et nous sommes toujours authentiques. Vous vous êtes ouverte à moi, je me suis ouvert à vous et voilà, je souhaitais que nous puissions fixer dans le temps une petite parcelle, un petit brin de soleil qui permettra justement à d'autres d'écouter cette entrevue et de dire tiens, le yoga a permis à ces personnes de faire quelque chose de nouveau qu'ils n'auraient jamais fait autrement, et moi de découvrir ce que le yoga peut apporter. Anne Laurençon, docteur en sciences de la vie, femme, mère, rassurante, pas seulement votre maître qui vous le dit, votre recherche, votre quête de la recherche pour savoir qui vous êtes profondément, d'après moi, elle a commencé bien avant 2007, sauf que depuis 2007, vous en êtes un exemple vivant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je vous laisse le mot de la fin. Donc, je laisse toujours le mot de la fin, je ne dirai plus rien. Par la suite, c'est à vous de formuler justement un souhait, un sankalpa pour l'humanité, pour les personnes qui écoutent cette entrevue. Comment vous voyez le futur? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et je vous remercie encore. À bientôt. Je sais qu'on va se recroiser, peut-être pas sur les ondes de radio, peut-être en personne. Je ne sais pas, mais je sais que le pont est solidifié entre l'Europe et l'Amérique encore un peu grâce à vous, grâce à nous, grâce à cette émission. Merci et le dernier mot est à vous, Anne. À bientôt, j'espère.
D'accord. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Un souhait pour l'humanité. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Je souhaite à l'humanité de prendre le temps d'écouter. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même et faire aux autres. Écouter, juste ça. C'est si simple et si essentiel que les gens parfois l'oublient. Et c'est ce qui nous est arrivé, Daniel. On s'est assis et on s'est écouté, tout simplement. J'ai écouté ce que vous aviez à me dire et vous avez écouté mon éclairage sur ce que vous aviez à me dire. Tout simplement. Quant au futur, je ne suis pas devin. On aime bien, et c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Daniel, la dernière fois. On aime bien me questionner parce que je suis chercheur et je travaille sur la durée de la vie. Alors, est-ce que les êtres humains vivront plus longtemps dans le futur? Est-ce que l'humanité sera capable de ceci ou de cela? Je ne saurais pas le dire et je pense que le futur est entre nos mains, à chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de l'imaginer, d'utiliser nos pensées pour construire ce monde futur. Et là, je vais citer à nouveau Maurice Debord qui dit que la pensée est la plus grande force de l'univers. Et plus je pratique, plus j'observe, et plus je pense que c'est très juste. Et qu'effectivement, c'est à chacun de nous à faire attention et à soigner nos pensées. Utilisons nos pensées comme un espace très positif, très lumineux pour tout le monde, pour soi-même, pour les autres. Et je suis sûre que ce sera un très beau futur pour nous tous. Je vous embrasse tous. Merci Daniel pour ce beau moment. Et plein de bonnes choses, plein de bonheur.